Bonjour et bienvenue dans ce podcast du blog Les Enfants à venir. Je suis Marion et je partage avec vous mes réflexions, mes ressources sur l'instruction en famille. Aujourd'hui, je reçois Mélissa Plavis, auteure du livre « Apprendre par soi-même, avec les autres, dans le monde, l'expérience du unschooling », sorti aux éditions Le Être Myriadis. Bonjour Mélissa Plavis.
Bonjour.
Je te dis un grand merci d'avoir accepté cette interview.
Si,
c'est super important pour moi et je suis très émue de te parler car en fait, si j'en suis là aujourd'hui, malgré que ça soit vraiment les débuts pour moi, c'est un peu grâce à toi parce que je me dirigeais déjà vers l'envie d'aider les gens par rapport à l'instruction en famille et il y a une amie qui m'a dit « Mais je connais quelqu'un qui a un blog qui fait l'accompagnement, déscolarisation. » Après, tu vois, je te parle de ça, c'était il y a au moins 2-3 ans et j'ai été sur ton blog et effectivement, tu te définissais en tant que doula, accompagnatrice en déscolarisation et plein d'autres choses. Et ça m'a fait vraiment tilt. Et du coup, c'est grâce à toi que je vis passionnément aujourd'hui. Donc, merci.
Écoute, si j'avais su que ça pouvait.
Est-ce que je peux te laisser te présenter? Tu le feras certainement mieux que moi.
Voilà, alors ça, c'est vraiment une question difficile pour moi de me présenter car je ne sais jamais par où commencer. ni par où terminer. J'ai tellement de casquettes, d'étiquettes différentes qu'on pourrait me coller, qui fait que du coup il y en a plus aucune et que je suis moi, Mélissa. Si j'en suis arrivée là, moi, c'est grâce à mes enfants. Donc je suis maman de 5 enfants.
Oui.
Mes aînés sont des jumeaux, ils ont 13 ans.
D'accord.
Et voilà, les autres ont 9 ans et demi et 7 ans. Et puis, j'ai eu un petit bébé que j'ai accompagné sur sa courte durée de vie. Voilà, donc il n'a pas d'âge.
D'accord, ok.
Moi, je suis vraiment... ils appellent ça polyactive. Il y en a d'autres qui disent je suis une slasheuse. C'est-à-dire que j'ai tout plein d'activités qui peuvent paraître super différentes aux yeux des personnes extérieures et qui, pour moi, en fait, sont complètement en lien. Parce que, par exemple, donc je suis doula parce que, doula, c'est un terme que certains d'entre nous connaissent, ou en tout cas des gens qui n'instruisent pas leurs enfants à l'école, ou qui n'instruisent pas leurs enfants tout court, d'ailleurs, qui les laissent instruire par eux-mêmes. Mais je suis accompagnante, en fait, parce que la doula, c'est celle qui accompagne la femme et le couple et la famille pendant la grossesse, la naissance et le postnatal. Mais moi, j'accompagne les femmes et les couples avant même la conception, même parfois quand il y a un désir de ne pas avoir d'enfant, comme je suis formatrice en symptothermie avec la méthode Sensiplan.
Oui.
J'accompagne et je forme les femmes et les couples à connaître leur fécondité combinée et à pouvoir planifier d'avoir des enfants ou non en fonction de leur choix.
D'accord.
J'accompagne, s'il y a une grossesse, je peux accompagner la grossesse, la naissance et le postnatal. Je fais du soutien à l'allaitement, je donne des ateliers de portage physiologique. Ensuite, j'accompagne aussi les personnes âgées, les personnes handicapées, parce qu'à la base, je suis éducateur sportif pour handisport, donc pour les personnes handicapées, moteurs et sensorielles.
D'accord.
Même si j'ai travaillé avec des personnes ayant tout type de handicap et pas forcément ni moteur ni sensoriel.
Oui.
J'écris, je suis pigiste pour le magazine de l'éco-parentalité, Grandir Autrement, depuis... 3-4 ans maintenant, je ne sais plus.
Ok.
Je suis donc auteure, je suis chercheuse, en formation puisque je suis en doctorat.
D'accord.
Et je travaille sur la parentalité dans les familles en unschooling justement.
Mm-hmm.
J'ai intégré récemment la maison d'édition Le Être Myriadis, en juin 2017. C'est la maison d'édition qui avait fait paraître donc mon livre « Apprendre par soi-même avec les autres dans le monde, l'expérience du homeschooling », un peu la raison pour laquelle on se rencontre et on se parle aujourd'hui, il me semble.
Oui, c'est ça.
Et j'ai intégré du coup la maison d'édition en tant qu'éditrice depuis, parce qu'en fait, c'est la maison d'édition de l'éco-parentalité, et l'éco-parentalité, c'est une thématique principalement Dali Borka Milovanovic a développé, mais qu'on aime travailler ensemble et discuter encore et toujours sur ces questions-là. Qu'est-ce que ce serait l'éco-parentalité, en fait, un terme qui décrit une parentalité qu'on a observée avec les familles qui nous entourent, de par nos activités, qu'elles soient bénévoles, comme les activités à l'Etcheli ou dans des associations de portage, ou de pouvoir rencontrer des familles qui ont des pratiques particulières et de voir c'est quoi ce lien entre toutes ces pratiques particulières, espèce de package qui est un peu rejeté ou pas d'ailleurs, mais en bloc, en tout cas, parfois décrié, ce package, oui. Je sais pas si on a déjà entendu parler. Voilà, et nous, on essaye de décrire et de comprendre en quoi des éléments qui pourraient faire partie d'un certain package ou d'un autre, parce que je pense qu'il y a plein de différents packages, peuvent avoir un lien, et notamment un lien, en fait, à l'écologie. Donc, on essaye de repenser, de redéfinir, ou en tout cas de se repositionner par rapport à une définition de l'écologie pour pouvoir comprendre en quoi ces relations et ces pratiques pluriculturelles seraient écologiques et donc éco-parentales.
Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, tu as grandement ce point dans ton livre.
Pas en termes d'éco-parentalité à proprement parler, parce que à l'époque, quand j'ai écrit ce livre, en fait, ce livre, il est basé sur mes écrits d'étudiante, en fait, en philosophie et en anthropologie. Quand on est en master, en fait, on doit écrire des mémoires. Donc j'ai écrit des mémoires en philosophie et en anthropologie. Et ensuite, y a eu toute une histoire qui fait que on m'a demandé d'écrire ce livre et que je me suis basée sur mes écrits que j'ai réagencés, auxquels j'ai ajouté plein de choses, et puis j'en ai enlevé aussi beaucoup, parce que dans mes mémoires, il y a des considérations universitaires que je considère un peu, qui peuvent être pour certains insupportables, et du coup je les ai enlevées pour que le livre soit plus grand public et traite vraiment du unschooling et de tout ce que ça implique en termes de mode de vie et de mode d'être, évidemment. Oui. Mais pas tout ce qui est sur les questions de positionnement, sur les questions scientifiques, les questions de recherche, tout ça, je l'ai un peu balayé. Voilà, pour garder l'essentiel de ce qui pourrait intéresser les lecteurs.
D'ailleurs, qu'est-ce qu'il est riche en références et tout ça, c'est vraiment très, très agréable à lire.
Oui, mais je pense que ça, c'est grâce au fait que, déjà, moi, je lis beaucoup parce que comme je l'explique, dans mes mémoires, mais je suis comme beaucoup d'entre les personnes qui écouteront probablement cet entretien, une maman chercheuse, finalement. Moi, quand j'ai eu mes enfants, j'étais ouverte à tout ce qui se passait, j'essayais de comprendre pourquoi est-ce qu'au départ je me suis pas écoutée, pourquoi est-ce que j'avais tant de mal à faire, en fait, comme je le sentais et à suivre, en fait, la norme de notre société. Et puis, j'ai beaucoup lu, j'ai rencontré du monde, j'ai discuté, j'ai cherché. Donc, j'ai déjà commencé à chercher avant de chercher en tant qu'universitaire, en fait. Comme beaucoup le font. Alors, souvent, on me dit, oui, toi, tu es philosophe et anthropologue. Je dis, non, moi, je réfléchis et j'observe comme la majorité d'entre vous, en fait. Et c'est juste que je me suis permise d'écrire quelques lignes, si on peut dire, pour mes études, et puis aussi pour moi c'était une volonté de partager dans le milieu citoyen. J'aime bien faire des projections, débat dans mes activités associatives locales. J'ai fait partie d'une association qui faisait des projections, débat, et l'idée c'était de discuter avec les acteurs locaux et les gens qu'est-ce qu'on peut faire ici et maintenant sur une thématique en particulier. Et donc, moi, j'aime partager les questions d'éducation ou de non-éducation et d'écologie avec tout le monde au niveau citoyen. Mais j'ai aussi envie, et j'avais aussi envie d'aller en discuter dans les milieux universitaires, parce que j'ai l'impression que c'est aussi un moyen d'aller toucher un autre public pour que les choses puissent changer. Alors, peut-être que je me leurre, mais... Voilà, c'était mon envie.
Ok, chouette. En tout cas, tu dois pas t'ennuyer.
Non, ça c'est sûr. Et puis j'ai probablement dû oublier des choses hein, dans mes activités. De toute manière, sur mon site, là, melissaplainvis.fr, oui, j'écris à peu près tout. Il manque encore des choses parce que j'ai pas complètement mis le site à jour. Mais en fait, je développe toujours aussi des nouvelles activités parce que dans la vie, ben, vu qu'on apprend tout au long de la vie, ben, je suis comme tout le monde, j'apprends tout au long de la vie et du coup, je découvre des nouvelles choses que j'ai envie de partager et que j'essaye d'utiliser aussi professionnellement parlant, c'est-à-dire aussi pour ben, me créer un revenu finalement pour pouvoir rendre possible la non-scolarisation.
Oui.
Rendre possible la vie dans cette société déjà.
Oui.
Parce que bon bah j'ai rencontré des gens qui vivaient sans argent, mais moi j'ai pas encore réussi à en arriver là. J'ai encore du travail peut-être et voilà. Voilà donc par exemple là j'ai fait une formation pour devenir animatrice au jeu du Tao. Et voilà pour moi le lien il est encore là. C'est un jeu. Un serious game de développement personnel, mais qui est super sympa, en tout cas que j'apprécie beaucoup animer et qui permet en fait de. Enfin, le lien, c'est prendre soin de soi-même. Je pense que dans le livre, c'est clair, prendre soin. Voilà. Prendre soin des autres, prendre soin de soi-même. Et donc, en fait, tout le travail que je fais dans la vie, que ce soit professionnellement, bénévolement, dans ma famille, j'essaye. Alors, bien sûr, c'est très difficile. On n'y arrive pas toujours, mais que ça aille dans ce sens-là.
D'accord.
C'est ça mon lien, voilà.
Ok. Et du coup, tu es une unschooler adulte, on pourrait dire. Est-ce que pour toi, le unschooling, du coup, est réservé forcément aux enfants? Et d'abord, comment est-ce que tu pourrais le décrire, puisque c'est la première partie de ton livre, c'est un peu là-dessus, dans le sens où c'est... Il paraît que c'est dur de décrire ce unschooling sans que ça soit la négation de quelque chose. Et finalement, là, tu es en train d'en parler et pas une seule fois, c'était la négation de quelque chose. Donc, comment est-ce qu'on pourrait le définir juste positivement?
Il y a plusieurs formulations que j'aime utiliser dans les conférences, dans les ateliers ou quand je parle du unschooling. C'est que déjà pour moi, le unschooling, bien plutôt qu'une méthode d'enseignement, alors vraiment d'instruction ou même d'apprentissage. Déjà,
oui.
C'est pas une méthode, mais ça va être pour moi un travail sur soi. En fait, vivre en unschooling, parce que pour moi, on fait pas du unschooling, parce que faire du unschooling, j'arriverai pas à décrire du coup la chose. Hein. Ce serait vivre en unschooling, c'est vivre en travaillant sur soi, en cherchant à réacquérir son pouvoir d'agir. Tout en cherchant à ne pas prendre le pouvoir sur les autres.
Oui.
Et notamment sur les enfants, quand on envisage le unschooling comme un axe par rapport à l'instruction. Mais le unschooling, pour moi, c'est bien plus que l'instruction. Disons que c'est une vision qui part de l'instruction et qui voudrait laisser les enfants libres de s'instruire par eux-mêmes.
Oui.
Mais qui s'étend en fait à toute la vie, à tous les domaines, et que à partir du moment où on pense déjà de considérer les enfants différemment, comme des personnes à part entière, qui ont certes moins d'expérience parce qu'ils ont un plus jeune âge, voilà, c'est des personnes qui sont capables de savoir ce qui est bon pour elle de s'activer, de s'animer par elle-même dans la vie et d'apprendre tout un tas de choses au cours de la vie. Et du coup pour moi le unschooling c'est sortir de la domination du point de vue du dominant. C'est-à-dire qu'on cherche à ne pas prendre le pouvoir sur les autres et on sait combien c'est facile dans notre société de prendre le pouvoir sur les autres et particulièrement sur les enfants.
Eh oui, bien sûr.
Et puis parce que ce que je crois aussi, c'est que parce que finalement on n'est pas capable ou on n'arrive pas ou en tout cas c'est difficile pour nous. Je veux pas nous dire qu'on n'est pas capable parce que en fait c'est pas une jolie vision et je pense pas que ça permet de s'en sortir non plus. Mais que parce que en fait on peut parfois ou souvent se sentir opprimé ou dirigé par son patron, par sa femme, par son mari, par je ne sais quoi d'autre, bah, du coup on va avoir une tendance à laisser faire ça et à vouloir prendre le pouvoir du coup sur des plus faibles et notamment les enfants. C'est du ça. Coup moi ce que je crois, c'est que justement, c'est prendre conscience de ces hiérarchies, de ces dominations existantes, et tâcher de lutter contre. Lutter contre en ré... Je sais jamais dire ce... Je sais jamais conjuguer ça. L'idée, donc, c'est de réacquérir son pouvoir d'agir, en fait, sa liberté à soi, pour laisser les autres libres et les laisser réacquérir le leur de pouvoir.
D'accord.
Sur les autres. D'agir. Vraiment, je fais cette différence-là. Donc, pour moi, c'est ça, le unschooling. Et ça se traduit dans le domaine de l'éducation et de l'instruction,
oui,
par la confiance en les enfants, la confiance en leur capacité à explorer, arpenter, découvrir, apprendre, parce que, de toute manière... on ne peut pas ne pas apprendre. On apprend de tout ce qu'on rencontre, des personnes, des choses, des êtres, et on apprend à survivre dans la société dans laquelle on vit. Alors bien sûr, il y a des vies plus peut-être chouettes que d'autres, et s'il s'agit d'apprendre à survivre dans une famille maltraitante, ben, c'est sûr que c'est pas la même chose que d'apprendre à vivre dans une société riche et complexe qui respecte les uns et les autres. Donc voilà, donc le critère là, souvent on est là sur le oui, il faut contrôler qu'ils apprennent bien. Pour moi, si contrôle ou vérification ils devaient avoir, ce serait que les parents n'empêchent pas les enfants d'être et d'exister par eux-mêmes, pour eux-mêmes et s'instruire et aller vers ceux qui les appellent, ceux qui les enthousiasment.
C'est exactement tout ce que tu as dit, c'est exactement ce que je. Vers quoi je tente d'aller par rapport à moi, par rapport à ma famille. Mais c'est vrai que j'ai des peurs qui ressurgissent, et notamment avec cette nouvelle loi. Est-ce que ça peut être possible, tu vois, de parce que du coup j'ai l'impression d'être brimée par rapport à ça, qu'on m'empêche de vivre, et justement par rapport à ce pouvoir d'agir, que j'ai pas le pouvoir d'agir par rapport à ça, et si je veux vraiment lutter contre le fait que mes enfants aillent à l'école, j'ai l'impression de devoir quelque part leur imposer des choses, puisqu'on nous les impose, et je sais pas comment passer outre. Est-ce que tu aurais une solution? Ben, par rapport au contrôle pédagogique, tu vois, et par rapport là, par exemple, la nouvelle loi va nous obliger à avoir des, enfin, il y aura obligation de résultats, ça va être comparé au cycle, enfin, c'est juste horrible, je trouve, de se trouver, enfin, moi, ça me fait vraiment peur et ça m'angoisse, alors que j'étais sereine et que j'avançais sereinement par rapport à ça, et que je trouvais qu'il y avait toujours moyen de faire passer les apprentissages naturels en termes de compétences. Et là, du coup, je me retrouve, est-ce que ça va être encore possible, tu vois? J'ai l'impression qu'on apporte une domination supplémentaire, un contrôle supplémentaire, et là, je me retrouve un peu en panique à savoir, est-ce que ça va être encore possible?
Ben, moi, je crois que oui, ce sera encore possible, parce que si on croit que c'est ça qui est juste, et que il est hors de question pour nous d'imposer quoi que ce soit à notre enfant parce que on estime que c'est atteindre finalement à sa liberté.
Oui.
Et ben on fera ce qu'on continue de faire en fait, et on continuera d'évoluer comme on continuera de le faire. Je pense que c'est défendable de différentes manières. Qu'on va pouvoir continuer à défendre la liberté des enfants, qu'on va pouvoir dénoncer l'agisme et la domination adulte qui est structurelle, qui est puissante de l'éducation nationale, de l'État, qui nous impose de surveiller nos enfants, d'enseigner à nos enfants, de les contraindre à apprendre ce qu'on souhaite pour eux. Et moi, ça, c'est quelque chose qui est pas possible. Et je pense vraiment qu'on peut continuer à le défendre, que la loi passe ou qu'elle passe pas. De toute manière, en Allemagne, l'IEF est interdite et il y a bien des unschoolers.
D'accord.
Ils luttent. ça fait peur. Ils luttent pour le droit de l'enfant en tant que personne à dire non. Non, je ne veux pas être scolarisée. Non, je ne veux pas qu'on m'enseigne. Non, je ne veux pas qu'on m'enseigne ceci ou cela.
Oui.
Et je vois pas en fait comment ce serait possible qu'on soit condamné pour ça. Hein. Je pense que il faudrait travailler ensemble. Je veux dire vraiment à plusieurs, à savoir sur quel texte on peut s'appuyer. Sur le droit des enfants, sur le droit des personnes, sur les droits de l'homme, sur alors je suis pas suffisamment calée, j'ai pas pris suffisamment le temps de travailler ça pour pouvoir monter une défense. Après, je pense qu'on devrait se soutenir tous, mais que il y a des disparités dans l'instruction en famille qui fait que c'est pas forcément possible, que chacun accuse chacun. Bah, c'est parce que vous déclarez pas qu'il y a ci, c'est parce que vous vous soumettez à tout ce qui demande qu'il y a ça, c'est parce que vous déclarez qu'il y a ça. Enfin, voilà. Chacun, alors évidemment, pas tout le monde, mais j'entends beaucoup ça dans les milieux non scolarisants, et puis ça m'attriste un petit peu, parce que je me dis que chacun lutte à sa manière, comme il peut, comme il y arrive, en fonction de ses peurs, etc. Moi, ce qui me convient le mieux, personnellement, avec la manière de me défendre avec laquelle je suis le plus à l'aise, c'est de pouvoir dire non officiellement. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je déclare, mais je ne suis pas d'accord avec ça.
Oui.
C'est voilà. Ce serait plus ma démarche à moi. Mais voilà, il y a tout un tas de démarches. C'est la désobéissance civile quelque part de ne pas déclarer parce que je pense. Que les personnes qui ne déclarent pas pensent qu'il y a moins de risques finalement à ne pas déclarer qu'à déclarer. Et alors les risques sont pesés en fonction des familles et pour elles, c'est ça. Pour moi, il y a moins de risques à déclarer. Pour moi, je veux dire, pas pour moi en général, pour moi, pour ma famille, pour ma manière d'être, pour ma capacité à me défendre, il y a moins de risques à déclarer et à montrer, à leur mettre sous le nez leur incohérence et le non-respect des droits de l'enfant. Enfin, des droits de l'enfant.
Des droits.
Pas des droits de l'enfant aux sciences juridiques, je veux dire des droits d'une personne en général, sans avoir même besoin de m'appuyer sur des textes. Je veux dire, par moi, c'est la. Enfin, c'est juste le bon sens, quoi.
Eh oui.
On parle de consentement. On parle de respect du consentement. On voudrait enseigner le respect du consentement aux enfants, alors qu'on ne respecte pas leur consentement. Pour moi, on peut enseigner seulement qui on est, et donc aussi ce qu'on fait. Et donc, c'est en respectant leur consentement ou leur non-consentement qu'ils vont apprendre à faire de même avec les autres. Je veux dire, quand on impose aux enfants d'aller à l'école, par exemple, on impose leur corps d'être dans un lieu dans lequel ils ne souhaitent pas être.
Et puis,
pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, il y en a pour qui c'est pas un problème. Mais je comprends pas comment. C'est complètement incohérent.
C'est ça. Et du coup, je vais changer de sujet. À ton avis, pourquoi l'instruction en famille, donc c'est, quand je dis l'instruction en famille, c'est pour reprendre toutes les pratiques qui peuvent être dans la non-scolarisation. Pourquoi l'instruction en famille est-il aussi genrée? Pourquoi c'est souvent les femmes qui s'occupent de leurs enfants lorsqu'ils ne sont pas mis à l'école?
Bon, parce que on a beau instruire en famille, on reste à vivre dans une société genrée, patriarcale. Moi, je crois, je n'ai pas étudié ça de manière scientifique, etc. Mais avec la vision globale que j'ai par rapport aux différentes familles rencontrées depuis presque 10 ans maintenant et les entretiens que j'ai pu faire avec les familles, il me semble que les pères sont la plupart du temps bien plus impliqués dans des philosophies unschooling, dans des vies en unschooling, parce que les modes de vie sont vraiment différents, je pense. Et que lorsque c'est la mère qui est plus présente avec les enfants, Ça peut aussi être un choix délibéré de sa part et donc pas du tout vécu comme une domination. Il y a un témoignage d'une femme, Agathe, dans mon livre là-dessus, où donc à l'époque où elle écrit, elle fait ce choix d'être avec ses enfants et son mari, enfin l'argent qui est rentré est pour la famille. Je veux dire, c'est pas l'argent du mari ou quoi, parce qu'elle travaille aussi dans sa famille.
Oui.
Elle rend la non-scolarisation possible. Voilà, et donc il y a une forme de reconnaissance de ce mode de vie, de ce que je comprends de son témoignage, une forme de reconnaissance de toutes les parties de la famille, des rôles de chacun, qui sont choisis,
oui.
Non imposés. Elle ne va pas, elle n'allait pas pas travailler parce que on lui imposait de pas le faire parce qu'il fallait qu'elle s'occupe des enfants.
Oui.
Donc je pense que une grande différence. Après, ce qui est quand même souvent vrai aussi, c'est que les hommes dans notre société ont souvent des meilleurs salaires et que du coup, s'il y a une personne qui doit s'arrêter de travailler, c'est souvent celui ou celle, et donc souvent celle qui gagne le moins d'argent.
Oui.
Mais bon, peu importe. Enfin, pour moi, ça, c'est pas des choses qui sont. Bien sûr, c'est des choses qui sont importantes. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas important pour moi dans ma réflexion, parce que ce que je trouve intéressant, c'est qu'est-ce que les familles, qu'est-ce que les personnes, qu'elles soient hommes ou femmes, choisissent. Si une femme choisit de ne pas travailler, de ne pas être salariée ou de ne pas travailler de manière autonome professionnellement,
oui.
Parce qu'elle a cette possibilité, parce que son compagnon, son mari, sa compagne ou je ne sais qui d'autre dans son environnement familial qui lui rend ça possible, quel est le problème ? Si la personne qui travaille est OK aussi. Enfin, je veux dire, si toutes les parties sont en accord. Pour moi, il n'y a aucun souci. Après, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment justement les parents redéfinissent leur vie, changent de travail, créent des nouvelles compétences et recréent leur activité, travaillent chacun à mi-temps ou à domicile à plein temps ou en travaillant avec leurs enfants. Enfin, il y a tellement de configurations possibles. C'est juste... chouette,
oui,
à observer, je trouve. Et donc, moi, j'ai pas envie. Alors, est-ce que parce que j'ai pas envie de le penser, je l'occulte? Je crois pas. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, voilà, c'est d'écouter ces témoignages de familles qui fonctionnent autrement, en fait.
Oui, tout à fait.
Et il y a des pères qui sont, je crois pas qu'on peut les oublier. Et j'en connais. Il y a des pères qui sont largement impliqués dans la vie de leur enfant. Au moins à mi-temps, enfin je veux dire à mi-temps, non c'est pas à mi-temps, c'est à part égale on va dire avec la maman,
d'accord, ok,
ou même plus, je veux dire par rapport au temps de présence avec les enfants ou au temps de partage d'activité avec les enfants,
oui,
c'est pas nécessairement des femmes.
Okay.
Je veux dire, il y a des hommes qui prennent des congés parentaux à leur travail, il y a des hommes qui décident d'arrêter de travailler et la femme continue de travailler, ça existe. Et il y a des personnes qui elles travaillent toutes les deux, soit à plein temps, à mi-temps, à quart-temps, ou alors elles ont leur société, ou alors il y a des familles qui décident de vivre avec le RSA. Ou avec des aides, mais c'est pas des gens qui sont assistés. Ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve un petit peu de pouvoir penser que ces gens-là vivent au crochet de la société, alors qu'au final, ils touchent moins d'argent que des gens qui feraient garder leurs enfants.
Oui.
Sauf qu'ils le touchent pas, ils le touchent directement, alors que les autres le touchent indirectement. Moi, par exemple, des parents qui mettent leurs enfants à l'école, combien ça coûte une année d'école pour un enfant ?
Dans ton livre, tu parles de 7 500 euros par année.
Voilà, bon, bah, mon livre, il est écrit il y a quelques temps déjà, parce qu'avant qu'il soit publié, il est écrit déjà une partie avant qu'il soit publié. Mais oui, donc ça doit être dans les 8000, 11000, après ça dépend des niveaux, oui. Ça dépend du primaire, collège et tout ça. Mais je veux dire ça, si on fait une moyenne 10 000 euros par an, alors qui vit au crochet de la société ?
C'est ça.
C'est pas une accusation pour qui que ce soit. C'est juste une demande d'un peu de tolérance vis-à-vis des gens qui veulent fonctionner autrement et qui, peut-être, qui touchent le RSA, peut-être qui touchent des allocations familiales. Mais en attendant, la majorité des parents et des familles que j'ai vues, qui, et notamment en unschooling, sont très actives localement dans les associations pour prendre soin des autres, pour prendre soin de l'environnement, pour... Enfin... mais c'est du travail. Est-ce que c'est pas du travail plus utile pour notre société que d'aller faire de la finance, je ne sais où, qui va contribuer à continuer à détruire notre planète et notre environnement et donc l'humanité. Après, je fais des grosses caricatures. Peut-être que certains ne trouveront pas juste, mais j'aime bien caricaturer parce que des fois, ça, en tout cas, ça permet de relativiser les pensées.
C'est ça, de prendre du recul. Et puis, c'est ça, c'est ce que tu dis aussi dans ton livre, le fait de la reconnaissance de ce travail qui est informel. Donc, on n'est pas rémunéré, mais effectivement, on travaille. Et on travaille de façon, enfin, c'est H24, c'est pas un don de soi dans le sens où on le fait par passion et par envie, mais d'un côté, effectivement, il y a bien un travail qui est fait. Donc, comme tu disais, si on a besoin du RSA pour faire ça, c'est voilà, c'est une façon aussi de pouvoir continuer à faire ça et au contraire de contribuer à avoir une société meilleure. C'est pas une façon.
Et du coup, c'est très mal payé quand même, hein, oui, parce que le nombre d'heures passées à travailler pour un RSA, c'est quand même pas énorme quoi. Mais enfin voilà. Du coup, moi j'ai juste ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai envie de soutenir toutes les démarches de toutes ces personnes qui cherchent à faire autrement, qu'elles réussissent à dégager un revenu professionnel ou non. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les personnes, moins on a de revenus et moins on consomme et moins on a un impact écologique, une empreinte écologique forte, je pense. Donc... Enfin, peut-être que c'est pareil, une pensée, une grosse pensée comme ça qui peut sembler ridicule, mais bon, pourtant, ça me semble être du bon sens, quoi. On va consommer autrement, on va faire de la récup, on va pas se permettre de gaspiller, on va pas racheter ce qui n'est pas nécessaire, on va faire tourner les vêtements, les donner et les emprunter ou les recevoir. On va essayer de cultiver pour certains des quelques légumes, ou voire beaucoup de légumes et de fruits. Enfin,
Oui, c'est une autre façon de voir le monde. C'est une autre façon de voir la vie.
Ouais, voilà.
Alors, je vais du coup changer complètement. Revenir aux apprentissages informels. Et est-ce que tu penses que un enfant atypique peut évoluer en total unschooling, ou est-ce qu'il a besoin, du coup, de par sa spécificité, son handicap, enfin si on peut appeler ça un handicap, est-ce qu'il a besoin justement d'aide et de soutien particulier? Je m'explique, par exemple, un enfant qui serait, je sais pas, dyslexique ou dyspraxique ou à haut potentiel avec une sensibilité, voilà. Est-ce que tu penses que le unschooling est possible pour tous ces profils-là qui sont un peu différents?
Alors, je vais commencer par pas répondre à la question. Je suis désolée. Il y a quelque chose. Et faut que je le dise avant. Et si jamais je perds mon fil, alors tu me ramènes à ta question, d'accord? Parce que j'ai une grosse tendance à perdre mon fil et à faire trop de digressions. Mais tu as dit, je vais revenir aux apprentissages informels. Et ça, c'est vraiment un truc qui à chaque fois me titille, parce que je pense que c'est une forme d'abus de langage, c'est-à-dire qu'on utilise ça comme ça sans penser à ce que ça veut dire. Un apprentissage informel, c'est un apprentissage qui est non conscient et non volontaire. C'est-à-dire, oui, que n'importe qui fait des apprentissages informels, tout le monde, les gens qui vont à l'école, les gens qui vont au travail, on apprend tout le temps dans la vie et informellement, tout le temps. Sauf qu'on ne va pas apprendre la même chose si on est à l'école ou si on nous impose aucun enseignement. Voilà, donc pour moi, c'est une erreur de parler d'apprentissage informel pour le terme unschooling. C'est-à-dire qu'en unschooling, les personnes qui vivent en unschooling, je pense qu'elles sont convaincues que des apprentissages informels peuvent être suffisants pour des enfants libres, pour devenir des adultes accomplis dans la société dans laquelle ils vivent. Je pense que voilà, ils ont confiance que ça peut être suffisant. C'est-à-dire que vivre en société, en rencontrant du monde d'une manière ou d'une autre, permet d'apprendre tout ce qui est nécessaire dans notre société.
Ok, on prend la différence.
Et voilà. Du coup, mais c'est seulement ça le lien avec le unschooling, parce que j'entends souvent dire, nous on fait de l'informel. Bah, de l'informel, c'est pareil, c'est comme le unschooling, ça se fait pas. L'informel, ça n'a pas de forme, donc on vit et dans la vie, on apprend tout un tas de choses. Bon, je sais pas moi, si tu sautes d'un muret et puis tu sautes d'un muret un peu haut et puis que bon bah la réception est un peu difficile, t'as du mal à amortir, ça fait un peu mal aux jambes, ben tu apprends informellement quelles sont tes capacités, de quelle hauteur tu peux arriver pour le moment à sauter, comment si tu le refais plein de fois, tu vas apprendre informellement comment amortir correctement. Enfin, je sais pas, par exemple, tu vois.
Oui.
Et c'est ça, on peut être à l'école ou pas à l'école, au CNED. On peut être enseigné par ses parents à la maison ou en unschooling, ça ne change rien, quoi. C'est un apprentissage informel et on en fait plein. Voilà. Du coup, c'est donc parce qu'en unschooling, les parents font confiance à leurs enfants, ils peuvent faire tout un tas d'apprentissages informels dans la vie en dehors de l'école.
Oui.
Mais s'ils allaient à l'école, ils les feraient à l'école, ils ne feraient juste pas les mêmes. Les enfants qui vont à l'école en font aussi en dehors de l'école. Et c'est surtout aussi les apprentissages autonomes et autogérés. C'est-à-dire que, en plus des apprentissages qu'on fait sans en avoir conscience et sans en avoir une volonté particulière, un enfant peut décider d'apprendre quelque chose. Il se dit, ça, moi, j'ai envie de savoir le faire. J'ai envie de l'apprendre. Et soit il peut travailler par lui-même à chercher à réussir. Par exemple, je sais pas moi, regarder des vidéos de danse, d'une danse particulière, quelle qu'elle soit, pour apprendre soi-même à danser chez soi. Oui. Ça arrive, il y a plein d'enfants à qui c'est arrivé, il y a des histoires qui ont tourné là-dessus aussi. Et voilà, donc ça va être un apprentissage autonome. Mais un apprentissage, il peut être aussi autogéré, au sens où dire, moi j'ai envie d'apprendre ce truc-là, mais j'ai besoin que quelqu'un me montre, j'ai besoin que quelqu'un m'explique, j'ai besoin que quelqu'un me partage son savoir et ses compétences.
Oui.
C'est un peu l'histoire d'André Stern qui va voir un maître luthier et qui lui dit « montre-moi ».
C'est ça.
Voilà. Informellement, dans son atelier, il va apprendre tout un tas de choses, mais il peut, donc j'ai pas le détail de son apprentissage, mais que ce soit pour lui ou pour quelqu'un d'autre qui dit « moi, je voudrais que tu me enseignes ça ».
Oui.
Il va apprendre d'une manière formelle, mais autogérée. Ça veut dire que ça va être choisi. C'est pour ça que le unschooling, c'est pas des apprentissages informels et l'école des apprentissages formels. Le unschooling, ça peut être aussi bien informel que formel. La différence, c'est que lorsque c'est formel, c'est choisi.
Oui, oui, je comprends.
Voilà. Du coup, on sent que tu m'y ramènes, j'y reviens moi-même. Moi, j'ai plutôt envie de partager ce que je vois et ce en quoi je crois.
Oui.
Pour moi, est-ce que le unschooling avec une personne atypique, ça fonctionne? Pour moi, c'est même l'inverse. C'est de dire que il me semble qu'il y a une surreprésentation des personnes neuroatypiques dans le milieu de la non-scolarisation, que ce soit des personnes qui soient au potentiel, que ce soit des personnes qui soient autistes, Asperger ou pas, ou canard d'ailleurs, en fait ça dépend donc en fonction c'est les parents ou les enfants, mais il y a vraiment une surreprésentation de la neuroatypie, je pense, dans le milieu non-sco. Et c'est pas pour rien que moi, il n'y a pas une seule rencontre non-sco que je fais où j'entends pas une personne, au moins, voire plusieurs, parler de ces sujets-là. Donc, ce que je crois, c'est que l'annonce-co, en général, permet de s'adapter aux personnes qui vont être particulières parce que l'école ne le peut pas. Et que parfois, on est amené vers l'annonce-co. Certaines familles sont amenées vers l'annonce-co parce que leur enfant est atypique, que l'école ne correspond pas et que du coup, ils vont chercher à proposer autre chose.
Oui.
Pour la question du unschooling, c'est-à-dire, je pense que ta question, c'est est-ce que ne pas imposer quelque chose à son enfant qui est atypique, ça peut fonctionner?
C'est ça.
Moi, je crois que c'est l'inverse, c'est que justement, l'exemple des personnes neuroatypiques qui nous montrent comment on peut ou on doit, je sais pas, adapter notre accompagnement à leurs différences, permet de prendre en compte chaque personne, qu'elle soit neurotypique ou pas.
Oui.
De leur différence, parce que c'est ok, il y a une grande différence entre les neuroatypiques et les neurotypiques. Ok. N'empêche qu'il y a une grande différence entre tous les neuroatypiques et il y a aussi une grande différence entre tous les neurotypiques. Et que du coup, prendre en compte la différence de chacun, quelle qu'elle soit et quel que soit son degré, est bénéfique. Donc, quand on vit en schooling, on n'est pas en train de délaisser, ignorer nos enfants. On reste à leur disposition, pas vraiment, mais c'est-à-dire qu'on se rend disponible tant qu'on peut pour eux.
Oui.
Il y a quand même une volonté de les accompagner dans la plupart des familles que j'ai rencontrées. Et du coup, on accompagne son enfant à la mesure où il en a besoin. Et on peut inverser aussi ta question. C'est en quoi imposer quelque chose à quelqu'un?
Mais oui, mais tout à fait.
Du de l'instruction, je réfléchis en même temps que je parle. Je suis désolée si c'est pas suffisamment fluide et clair, mais bon, tu me poses une question. Je me dis que c'est pas plus mal si je réfléchis avant de répondre. Mais non, mais moi, ce que j'aime dans l'échange et dans le dialogue et dans ce genre d'interview aussi, c'est que tu vas venir me poser des questions qui vont me faire aller chercher des réponses que j'ai pas formaliser ou formuler, tu vois, encore.
Oui,
et du coup
oui.
ben je peux le j'en avais déjà discuté avec une personne à Grandir Autrement d'ailleurs de cette question là et c'est à peu près ce que je crois j'avais répondu, mais voilà,
Oui.
c'est pas tout à fait clair pour moi, mais il y a une espèce de voilà, moi j'ai l'impression que d'avoir travaillé toujours avec les minorités et de m'être toujours intéressée aux minorités, c'est aussi lié au fait que je me suis toujours sentie minoritaire, peu importe les groupes dans lesquels j'étais. Et que du coup, j'ai cette capacité à prendre en compte les différences.
Oui.
Et quand on peut prendre en compte les différences liées à un handicap ou liées à une situation sociale ou liées à une particularité familiale, ben on peut prendre en compte les petites différences qui paraissent si minimes à côté de ce qu'on a déjà connu.
Oui, tout à fait. Oui, merci beaucoup de réussir à répondre quand même à cette question qui... Ouais.
Et puis aussi, j'ai envie d'ajouter que moi, j'ai vécu un petit peu la même chose où on m'a reproché de... Parce que mon enfant est comme ça, parce que je ne lui ai pas imposé l'apprentissage de la lecture à 6 ans.
Oui.
voilà, et en fait, pour moi, il y avait tout un discours psy qui visait à faire rentrer dans la norme, à faire rentrer dans le moule. Et là, je me disais, mais ça va très loin, en fait. Ça va très, très loin. C'est très, très angoissant parce que tout ce qui nous est enseigné, et parce que c'est, bah, bien sûr, les psys sont allés à l'école. Et c'est à l'école qu'elles ont appris leur métier de psy.
Oui.
La plupart du temps, je parle des psychologues, cliniciennes, enfin voilà, toutes celles qui ont fait des études dans le supérieur et tout ça. Et j'ai vraiment l'impression, parce que c'est Ivan Illich qui dit ça, je vais essayer de le dire correctement, que c'est à l'école qu'on apprend à l'école.
Oui.
Alors à chaque fois, c'est pareil. C'est une phrase que je n'arrive pas à dire. C'est-à-dire que tu apprends à l'école, que c'est seulement à l'école que tu apprends.
Oui.
D'accord.
Ouais,
et du coup, avec un rythme imposé, du coup. Puisque on apprend à lire à 6 ans. Enfin bon, je t'énonce pas toutes les... Enfin, je pense que ça, c'est bien connu de tout le monde. Et que du coup, toutes les disciplines autour vont te montrer finalement que ben ça doit être comme ça et que si c'est pas comme ça, c'est pas normal. Alors que l'expérience des non-scolarisants, c'est que les enfants apprennent à lire à des âges complètement différents. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'apprendre? Qu'est-ce que c'est que lire? Qu'est-ce que c'est qu'apprendre à lire? Quand est-ce qu'on peut dire qu'on commence à lire ou qu'on commence pas à lire? Et alors là, vraiment, mais je vous suggère ce merveilleux livre de d'Harriet Pattison, Rethinking Learning to Read. Alors pour l'instant, il est qu'en anglais, mais attention, il va bientôt, il va être publié aux éditions Le Hêtre Myriadis.
Wow.
Ouais, donc il sera, on pourra lire en français dans quelques temps.
D'accord.
C'est super chouette et vraiment, c'est un bouquin sur repenser l'apprentissage de la lecture, mais c'est bien plus que ça. Ça veut dire que c'est un écrit donc d'Harriet Pattison qui est basé sur des entretiens et des questionnaires avec plus de 300 familles non scolarisantes qui vont mettre en lumière l'apprentissage, la lecture. Qu'est-ce que ça veut dire que de savoir lire? Est-ce que c'est savoir déchiffrer? Ça va vraiment très loin et c'est vraiment super chouette comme livre. Ah ouais, vraiment. Moi qui suis une convaincue, je l'ai lu après avoir publié mon livre, d'accord. Ce bouquin. Donc, oui. A priori, je suis quand même quelqu'un qui, en tout cas, peut paraître assez convaincue.
Oui.
Eh ben, pour moi, ça a été une lecture de. Juste avant, j'avais lu Peter Gray, Libre d'apprendre, qui oui. Pour moi, je le dis souvent, c'est un booster de lâcher prise, puisqu'il donne à voir les apprentissages informels. Dans le jeu libre et toutes les compétences techniques, sociales, émotionnelles qui peuvent être apprises dans le jeu libre de manière informelle. Ça met tellement ça en avant et c'est tellement clair que pour moi, ça permet de lâcher prise, de se dire mais on leur fout la paix. Regardez, c'est magnifique, ils sont en train de jouer. Regardez tout ce qu'ils apprennent. Pourquoi est-ce qu'on est stressé? Pourquoi on s'inquiète? Et voilà, donc ça, c'était un des livres après ma publication qui était génial. Et ensuite, j'ai lu Harriet Pattison et vraiment sur la thématique de la lecture là et les apprentis informels mais pas que de la lecture et vraiment c'est voilà les deux livres qui booster de lâcher prise. Moi j'en ai juste besoin parce que mon fils un de mes fils lisait tardivement.
Oui.
Et bien qu'étant convaincu, j'avais toujours besoin de plus de témoignages, de plus de lecture et ce livre vraiment il m'a dit mais t'as raison, laisse-le tranquille. Voilà.
Et il sort quand ce bouquin? Parce que là, j'en ai besoin.
Je sais pas te dire.
Non.
Vous pouvez lire en anglais. Vous pouvez le lire en anglais en attendant.
C'est ça.
Plutôt possible. On fait tout ce qui est en pouvoir pour sortir des bons livres le plus rapidement possible. Mais on a plein de vies. T'as vu hein, quand j'ai essayé de me décrire. Et de me présenter, je savais pas trop par où commencer, c'est un peu ça. Donc on fait comme on peut à notre rythme de maman aussi non-sco.
Et ouais, puis moi c'est vrai que du coup avec tu vois, j'ai été à l'école et j'y étais longtemps puisque j'ai été institutrice et c'est juste horrible tout ce que ça me renvoie et tous les doutes qui remontent, je pense que j'en ai de façon démultipliée. Donc c'est dur de lâcher même si j'en suis convaincue, mais bon bref, voilà. Tout ce que tu dis. Et d'ailleurs, par rapport à ce lâcher prise, c'est souvent aussi qu'on se demande si notre vie est assez riche pour permettre à nos enfants d'évoluer sereinement, librement et d'être le mieux possible au contact du monde et de la société qui les entoure. Et voilà, on se demande en tant que parents, est-ce que je les délaisse pas quand j'ai trop de choses à faire? Est-ce que je fournis un cadre assez stimulant? Et voilà, c'est vrai que cette pression-là aussi, c'est dur de lâcher.
Ça, c'est encore une vision normée parce que deux commentaires, deux réponses, c'est pas une question, mais deux idées en tout cas à formuler par rapport à ça.
Oui.
Je viens d'oublier la première ou la deuxième, je sais pas, mais alors. Une des deux, on va commencer par celle dont je me souviens. Je crois vraiment que, avant de penser, est-ce que notre environnement est assez riche, on pourrait penser dans quelle mesure mes actions empêchent mes enfants de développer pleinement leurs capacités. Je crois que des nourrissons, dès la naissance, ont, malgré nous, hein, parce qu'on sait pas, c'est pas du tout de la malveillance ou quoi que ce soit, c'est juste que on s'en rend pas compte. En fait, on empêche nos enfants d'exercer leur capacité déjà motrice et instinctive dès la naissance. Parce que on va pas laisser nos enfants aller chercher le sein par eux-mêmes, explorer pour pouvoir prendre le sein. On va les maintenir, par exemple, pour les femmes qui allaitent, dans une position la Madone, où en fait la gravité joue contre les capacités de l'enfant. Donc en fait, on va le tenir, on va le maintenir. Donc plutôt que d'être en position du type biological nurturing où le bébé va pouvoir grimper, glisser ses genoux, passer ses bras, relever un petit peu sa tête, tourner sa tête de droite à gauche pour chercher le mamelon et tout ça, maintenant on tient dos au sol, donc il peut pas relever sa tête, il peut pas exercer son réflexe de fouissement, il peut beaucoup moins s'agripper, il peut pas passer ses genoux pour s'appuyer dessus. Donc voilà, donc déjà là, dès la naissance, on l'empêche d'exercer ses pleines capacités à son niveau. Il y a d'autres choses, hein, je donne dans les conférences, là, je donne quelques exemples comme ça, ou aussi par rapport à la manière dont on porte nos enfants. La plupart du temps, les jambes sont tendues, on les serre contre nous, du coup, ils peuvent juste bouger leur tête, voir le haut des épaules. Et du coup, si on les portait sous les fesses, on pourrait les maintenir simplement en haut du dos en fonction de leur capacité, justement. Mais ils pourraient exercer le travail de l'équilibre, l'agrippement, l'action, en fait, dans le portage. Ils seraient beaucoup plus acteurs dans le portage. Et nous, on les empêche. On les met dans des transats où ils sont attachés, où ils sont dans un creux où de toute manière ils peuvent pas bouger. On les met dans les poussettes pareil. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Le biberon, n'en parlons pas. On leur donne à heure fixe, donc on leur laisse pas exercer leur capacité de sentir le besoin de têter ou au moins de manger et de pouvoir leur donner à... Alors évidemment, je caricature, je dis je fais des grosses généralités alors qu'il y a des gens qui le font pas, évidemment. Mais je veux dire, même des gens qui ont travaillé là-dessus, qui ont réfléchi là-dessus, qui veulent nourrir à la demande, au signe d'éveil, qui veulent... malgré nous, on les positionne dans des positions qui les mettent dans des situations dans lesquelles ils peuvent pas exercer leur capacité actuelle au moment où un bébé il a pas tant de capacité que ça, mais en fait il en a plein, mais on l'empêche de les exercer, c'est fou. Et il y a aussi la question des couches. On leur met couches super absorbantes, et pendant 3 ans on ignore leur besoin d'élimination.
Oui,
parce qu'on n'a pas idée simplement qu'un bébé peut communiquer sur ses besoins d'élimination, et on va leur demander à 3 ans, ou à 2 ans, maintenant faut que tu sois propre, alors tu vas apprendre à être propre.
C'est ça.
Mais en fait, on leur a empêché d'exercer leur capacité de communiquer leurs besoins pour qu'on les accompagne dans ce besoin-là et que petit à petit ils deviennent simplement autonomes. L'apprentissage de la propreté, c'est vraiment, c'est pas une solution, c'est un problème de penser les choses comme ça. Pour moi, on vient résoudre un problème qu'on a créé à la base en niant leurs besoins. Mm-hmm. Pareil pour la nourriture, en fait, le fait de leur laisser. Donc la diversification menée par l'enfant, le fait de laisser les enfants pouvoir aller chercher par eux-mêmes en prenant par leurs mains, en essayant les textures, les odeurs, en essayant de mâcher, tout ça on leur enlève. Pouf, c'est dans des pots, ils sentent pas, c'est à la cuillère, pouf, dans le bec.
C'est ça.
Caricature, mais je voudrais pas que ce soit trop difficile peut-être à entendre, pour moi, on empêche nos enfants d'exercer leur pleine capacité. Donc avant de se demander « Oh, mais est-ce que mon environnement est suffisamment riche ? Est-ce que je suis suffisamment parfaite ? Est-ce que je suis suffisamment instruite ? Est-ce que qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter à notre enfant ?» Déjà, si on pouvait l'observer et le laisser agir par lui-même, est-ce qu'on a besoin d'un environnement si riche ? Et ça veut dire quoi, riche ? Ça veut dire des milliers de bouquins, parce que les bouquins et la lecture, c'est ce qu'il y a de plus important. c'est moi je pense que avant de se quand on se pose cette question là on peut se dire c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, est-ce qu'il y a besoin d'un environnement riche au sens où je crois que tu l'entends et que beaucoup peuvent l'entendre parce que c'est toujours la question de oui il faut apporter un environnement riche aux enfants pour qu'ils se développent correctement. Bon, évidemment, si tu enfermes un enfant dans un placard, il va apprendre à survivre enfermé dans un placard. L'environnement va pas être super riche, on est d'accord. Je veux dire, j'entends ce que tu dis, mais j'ai envie toujours de remettre, je caricature exprès pour remettre en perspective le truc de c'est quoi riche. Riche, ça veut dire avec des gens autour, avec du monde autour, pour que les enfants puissent jouer librement, pour qu'ils puissent vivre des émotions différentes, les accueillir, les comprendre. Qui puisse exercer des capacités sociales d'adaptation aux autres, à un enfant qui va avoir moins de force physique ou plus de force physique ou qui va être plus lent ou plus rapide ou voilà, c'est qu'est-ce qu'on a envie que nos enfants puissent aussi acquérir.
Oui.
Tu vois.
Oui.
Et le fait de juste ne pas leur imposer d'être assis dans une salle de classe et d'être dirigé, et ben quelque part c'est une manière de leur permettre d'exercer leur autonomie.
C'est ça.
Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Les enfants qui sont déscolarisés, on dit souvent que ils ont un temps proportionnel au temps de scolarisation où ben il y a une espèce de flottement et ils se reprennent pas en main, ils prennent pas leurs activités en main, ils savent pas trop. Enfin, tu vois, il y a une espèce de temps de flottement.
C'est ça.
Voilà, évidemment, depuis qu'ils sont petits, on les a animés, on les nourrit quand on pense qu'il faut qu'ils les nourrir, on les nourrit avec ceux qu'on pense qu'il faut qu'ils mangent, on leur enseigne ceux qu'on pense qu'il faut, à l'heure où il faut, au temps où il faut, à l'âge où il faut. Du coup, ils ont quoi comme place, eux, là-dedans ?
J'entends tout à fait ce que tu veux dire. Du coup, voilà, se contenter de vivre et finalement, ça sera assez riche. C'est un peu le message aussi, de les observer, de vivre nous pleinement à leur côté et de leur permettre de nous accompagner dans tous ces moments partagés.
Ouais, je n'ai pas envie de dire que de toute manière ce sera assez riche. J'ai envie de dire observer la manière dont, malgré vous, vous contraignez vos enfants d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans leur capacité physique, oui. Parce que vous avez peur quand ils grimpent à l'arbre, par exemple. Si on n'est plus pour parler de situations où les enfants sont plus grands, parce que utiliser un couteau c'est dangereux, parce que faire un feu c'est dangereux, parce que voilà, je me parle aussi à moi-même, hein, parce que moi je suis aussi pleine d'angoisse et j'essaye d'y travailler. C'est pour ça que je dis toujours que c'est un travail sur soi. C'est vivre en unschooling, c'est vivre en travaillant sur soi, dépasser aussi ses peurs, enfin les dépasser ou en tout cas les et chercher à comprendre ce qui bouge en nous et pourquoi et c'est lié à quoi et puis essayer de pas faire que ça empêche trop les autres de vivre autour de nous quoi.
C'est ça.
Et vraiment encore une fois je me parle vraiment à moi-même. et en fait ma deuxième idée ben je l'ai perdue.
Reviens, fais signe et voilà. sinon du coup le fait de les observer, de pas mettre de frein à ce qu'ils voudraient entreprendre et tout ça, ça apporte aussi la notion de la place de chacun, puisqu'il y a quand même des moments où du coup, en tant qu'adulte, on impose. Enfin là, je parle aussi pour moi personnellement, où moi j'ai l'impression d'imposer des choses à mes enfants. Puisque j'ai besoin de faire ce truc-là aujourd'hui et des fois ils ont vraiment pas envie de venir avec moi, du coup j'ai l'impression de leur imposer. Et voilà, tu vois, le fait de respecter la place de chacun, comment aussi ça peut se mettre en place d'une façon harmonieuse. Et est-ce que tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression de toujours exercer quand même une position de supériorité par rapport à ça. Puisqu'au final, voilà, on va finir par faire le truc que j'ai besoin de faire parce que j'ai besoin de le faire aujourd'hui et peut-être que...
Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire puisque je suis confrontée au même questionnement et au même problème. Mais j'en suis là pour le moment. Je vais te dire là où j'en suis pour le moment dans ma réflexion par rapport à ça. C'est que... ne pas imposer des choses à ses enfants, je veux dire ne pas imposer de manière arbitraire des choses. Quand on vit dans une famille où on est plusieurs, de fait, la vie familiale nous impose des choses. Mais c'est pas qu'aux enfants, c'est aussi à nous en tant que parents. La vie en groupe, même s'il n'y a pas d'enfants, va nous imposer des choses. Ça veut pas dire que les gens, par exemple, à l'extérieur, vont nous imposer quelque chose. Mais c'est que de fait, parce qu'ils existent, des choses sont imposées. Et ça, c'est complètement différent. Oui. Je veux dire, la gravité nous est imposée. OK? Et c'est pas une imposition arbitraire de quelqu'un qui aurait décidé que ça, ce serait bien. C'est un fait, c'est comme ça. Sur cette planète, on vit avec la gravité. Bon, bah voilà. Quand un enfant vit dans une famille où il y a 3 enfants, et ben, de fait, le rythme de ses 2 frères ou sœurs va impliquer sa vie. Ne pas imposer, quand moi je dis ne pas imposer quelque chose à son enfant, ça veut dire ne pas décider pour lui quelque chose qui concerne sa vie. Ça ne veut pas dire ne pas donner son avis et ne pas rentrer en discussion avec lui dès lors que son choix nous implique notre vie à nous. Je veux dire, ne pas imposer quelque chose à son enfant ou à ses enfants, ça ne veut pas dire s'imposer à soi-même de simplement ne rien dire, même si ce qui est fait est insupportable pour nous et que du coup ça implique notre vie. C'est pas ça que je veux dire du tout. Mmh. Ça veut pas dire que les enfants passeraient d'abord. Ça veut dire qu'ils ont une place à part entière dans un groupe et que ce qui les concerne et qui n'implique, enfin, ça implique toujours un petit peu, mais n'implique pas de manière démesurée le reste de la famille. Je veux dire, si un enfant, je sais pas moi, ou un adulte, enfin je veux dire n'importe qui, met de la musique à fond 24 heures sur 24, on va pas pour respecter sa liberté, ne pas lui dire que bah pour nous c'est insupportable et que c'est pas possible.
Oui, tout à fait. Ok.
Tu vois, dire c'est que de toute manière, il y a des échanges entre les gens et que ben moi je dois aller chez le médecin. T'as 1 an et demi, je suis pas du tout capable de te laisser seule dans cette maison. Du coup, ben, je suis bien désolée, mais il faut que tu viennes avec moi. Je veux dire, ça pour moi, c'est complètement différent que d'imposer à un enfant de mettre un pull parce que nous-mêmes on a froid et que du coup on lui met un pull alors que lui il n'a pas froid. Tu vois un petit peu la différence de sensibilité. C'est-à-dire que bon, alors comment ça peut nous impliquer qu'effectivement ils mettent pas un pull parce qu'il a l'impression de, il aurait l'impression de pas avoir froid alors qu'en fait il a froid. En fait, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans son corps puisqu'on n'y est pas. C'est que potentiellement il tombe malade. Voilà, ça c'est l'argument souvent. Ouais, mais s'il tombe malade, ben c'est moi qui vais devoir le soigner, c'est moi qui devais. Oui, ça c'est vrai. Du coup, comment on fait avec ça? Mais ce que je crois, c'est que est-ce qu'on peut interroger cette question-là de est-ce que on ne s'est pas arrangé avec cette idée-là que si on mettait pas de pull, on tombait malade, parce que ça nous arrange, enfin, tu vois, d'une certaine manière, et puis on impose le pull avec cet argument-là. Oui. Je sais pas. Il y a quand même des gens qui soutiennent ou qui racontent que, ben, ils faisaient ça au départ, puis finalement ils ont laissé, puis leur enfant est jamais spécialement tombé malade pour cette raison-là en particulier, puisque ça arrive qu'ils soient malades ou enrhumés, je veux dire. Mais pas de manière, enfin pas à chaque fois qu'ils mettent pas de pull, puisque de toute manière ils en mettent jamais. Mais, voilà, et du coup ça a pas nécessairement de lien, donc il y a des familles qui racontent ça pour partager ce truc de, ben moi j'ai lâché prise là-dessus et j'ai vu que finalement ça avait pas une incidence folle sur le rhume de mon enfant.
Oui, tout à fait.
Et voilà, du coup on peut interroger nos a priori ou ce qui nous semble être des vérités pour revoir nos comportements. Et je veux dire c'est un travail sur soi. C'est-à-dire que moi, souvent, on dit « Oui, mais toi, tu fais ça. » Je dis « Ben ouais, mais moi, je travaille sur moi, en fait. Mais je suis loin d'être parfaite. Je suis loin de réussir à sortir de la domination parentale ou adulte comme ça. D'autant plus qu'on vit dans une société où la domination adulte est structurelle et que il y a rien qui nous aide, en fait, à sortir de cette domination. Mmh. » Voilà. Et donc, après, il y a une espèce de truc de culpabilité où on se culpabilise de se dire « Ah ouais, mais là je peux pas faire ça quand même, ce serait l'empêcher ou mais nous aussi on a le droit de vivre, je veux dire C'est pas. Nous aussi, on a notre pouvoir d'agir et tout ça. Donc, on essaye de pas empiéter sur la liberté de chacun, mais on fait avec qui on est, ce qu'on peut, et le fait que on a une famille là. Et puis, encore aujourd'hui, pour l'instant, c'est nous qui gérons le budget des courses. C'est nous qui gérons ça ou ça. Alors, il y a des personnes qui vont proposer des solutions, comme, ton enfant, là, il a grandi, tu lui proposes un budget, qu'il va gérer lui-même, il va l'expérimenter, il va voir comment ça fonctionne, et puis tu lui donnes une part en fonction de, est-ce que dans sa part de budget, par rapport à la part que toute la famille gagne, est-ce que dans ce budget, le logement est compris? Est-ce que la nourriture est compris? Et en fonction de l'âge de l'enfant, alors, c'est des solutions qui sont proposées par certaines personnes. Moi, je dis pas que ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, si c'est bien ou si c'est pas. Je l'énonce parce que je trouve ça intéressant de penser comme ça. Et du coup, tu donnes une part plus ou moins grosse en fonction de s'il veut gérer son propre logement, donc payer une part du logement s'il vit dans la famille, ou payer une part du logement s'il décide d'aller vivre chez quelqu'un d'autre et de donner un petit dédommagement à quelqu'un d'autre.
Oui.
En plus, dans ces questions-là aussi. Et puis s'il veut pas gérer ça, le budget il se restreint parce que la part en fait elle est automatiquement donnée au truc de la famille, tu vois.
C'est ça.
Alors il faudrait poser la question notamment à Elfie Reboulot qui vient d'écrire un livre qui va vraiment sortir vraiment tout bientôt qui s'intitule Qu'est-ce que l'agisme? Oui. Et elle en parle dans son livre.
D'accord.
Je trouve ça intéressant. À penser et puis pourquoi pas expérimenter. Qui sait, oui. Peut-être que ça pourrait nous changer toutes nos idées sur. Alors je me parle à moi-même. Je me pose en ce moment des questions sur est-ce que je vais pas mettre ça en place. Que mes plus grands enfants qui aimeraient avoir plus d'autonomie encore et qui ont l'impression que en tout cas qui signalent le fait que je les empêche, alors que j'ai pas l'impression, au contraire, que j'ai l'impression de les soutenir dans leur projet. Oui. Mais peut-être que finalement ils ont raison et que peut-être que avec cette manière de faire, ce serait leur permettre de se rendre compte que peut-être que c'est pas moi qui les empêche, mais c'est simplement le budget familial qui fait que il y a des choses qui sont possibles et qui sont pas possibles, et que pour moi aussi, il y a des choses qui sont pas possibles que je peux pas faire et que je, en fonction de, on fait comme on en fonction des priorités qu'on a. Voilà. Et que peut-être, ils pourraient s'en rendre compte comme ça, et puis, ou peut-être que moi, je pourrais me rendre compte qu'en fait, c'est complètement, que je me plante complètement.
Ouais. C'est une chouette idée, en tout cas. Et, je vais te poser une dernière question.
Ouais.
Est-ce qu'il y a, très très vague la dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose dont je n'aurais pas parlé et que tu aimerais partager avec les familles qui sont en questionnement vers le lâcher prise ou en chemin vers l'unschooling?
Tu me posais la question et j'étais en train de penser, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, du coup je vais peut-être dire ça.
Cool.
Mais c'est par rapport à une question que tu m'as déjà posée par rapport à est-ce que le unschooling serait encore possible si la loi telle que c'est en train de passer et j'ai dit qu'il y avait différentes manières de lutter en fonction des familles, la même manière semble plus juste et donc chacun adopte sa façon de faire.
Oui.
Soit de se soumettre et du coup de faire plus de formels imposés pour pouvoir faire en sorte que les contrôles se passent mieux. Or, la réalité, à mon avis, montre que c'est pas parce qu'on fait plus de formels que la réalité se passe mieux. Mais bon,
oui.
ça c'est mon point de vue. Ou que on pouvait désobéir en ne déclarant pas, ou qu'on pouvait désobéir en déclarant. Voilà. Et donc, ce que j'ai oublié peut-être de citer, ou peut-être je l'ai fait, mais je m'en souviens pas, c'est qu'il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place. Que je suis de très près pour l'instant. Je ne sais pas ce qui va devenir. Je ne sais pas si je vais trouver tout ce qu'ils font juste. Peut-être que je vais les rejoindre de manière plus active. Ça, je ne sais pas non plus. Je pour l'instant, j'observe encore ce qui se passe. C'est le mouvement Enfance Libre.
Oui.
C'est un mouvement qui a été mis en, enfin initié, voilà, initié, je pense que c'est le bon terme, par Ramin Farangi, qui est notamment le cofondateur de l'école dynamique à Paris, qui est une école démocratique, et qui a cofondé le village, l'éco-village de Pourgues, plus récemment, oui. Et qui a écrit aussi un bouquin. Et là, j'ai très honte, mais je ne sais plus le titre du livre de Ramin, si m'écoute, si vous voulez. Si, et pourquoi j'ai créé une école où les enfants font ce qu'ils veulent. Je crois que c'est ça le titre.
D'accord.
Voilà, et voilà, et ce mouvement-là est assez fort, je trouve, pour défendre le droit des enfants à s'instruire librement et donc des familles à ne pas être embêtées lorsqu'elles les laissent s'instruire librement. Oui. Du coup, ils réfléchissent à tout un tas d'actions et de manières de formuler pour que ce soit juste pour tout le monde. Donc, ils essayent de montrer en quoi l'inspection d'académie n'a pas lieu d'être, d'après ce que je comprends de ce que je suis. Peu importe, parce que je pense que ce qui est en fond, c'est tout ce que les familles voudraient, et que je pense qu'il y a plusieurs manières de militer et de se battre contre les restrictions en général et liées à l'IEF plus particulièrement. Mais je pense que comme le unschooling, on peut le regarder du point de vue de l'instruction, mais on peut le regarder de plein d'autres points de vue, et que clairement l'État est en train de resserrer tout un tas de choses. Voilà. Et donc, de point de vue de l'instruction, je pense que c'est un mouvement qui est intéressant et qui permet à chacun, j'ai l'impression, de pouvoir prendre sa place et de militer à son rythme et à sa manière. C'est-à-dire qu'on peut être actif, on peut être soutenant, on peut, voilà. Et j'aimerais, en tout cas aujourd'hui, dans l'état actuel de ce que j'entrevois de ce mouvement, qu'il y ait un nombre de familles grandissant qui puissent s'y adjoindre et grossir le groupe, parce que plus on sera nombreux à s'allier et plus on aura de poids finalement, peu importe la manière dont on milite. Je veux dire, on peut s'opposer à une inspection de manière extrêmement explicite, ou on peut très bien vivre son inspection comme d'habitude, simplement en disant moi je le fais, mais je suis pas d'accord.
Oui.
Et voilà, et du coup moi, j'ai vraiment l'impression que c'est notre incapacité dans l'IEF à être soudés, parce qu'on a tellement de différences que c'est difficile. Et pour moi, en premier, c'est difficile. Par exemple, j'ai du mal à soutenir la liberté pédagogique, par exemple, parce que pour moi, soutenir la liberté pédagogique, c'est soutenir le droit de l'adulte à choisir comment on veut diriger son enfant. Donc pour moi, c'est pas possible. Moi, je peux soutenir la liberté de s'instruire par soi-même. Donc, qu'on soit enfant, adulte, on s'en fout, ça. Peu importe l'âge. La liberté de s'instruire. C'est-à-dire que personne ne nous empêche d'aller chercher ce qu'on a besoin pour vivre correctement, pour vivre comme on a envie, et pour développer son savoir, ses compétences, qu'elles soient techniques, relationnelles, émotionnelles, enfin, bon, peu importe. Voilà. Ça, j'ai peut-être un vœu d'association que moi-même, je n'arrive pas à exercer, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que de toute manière, déjà, on est une minorité, donc faudrait qu'on soutienne pour avoir un peu plus de poids. Après, voilà, chacun fait comme il pense juste, et puis de toute manière, on peut pas faire autrement.
On peut pas faire autrement, mais
non, faire comme on pense juste, ou en tout cas comme d'essayer de faire comme on pense qui est juste, quoi. Enfin, moi, je sais pas faire autrement. Alors, ouais. J'ai l'idée que tous les autres ne peuvent pas faire autrement, mais peut-être que c'est une idée fausse encore, je ne sais pas.
Ouais, non, mais moi je suis en tout cas. Je suis et je rejoins.
Je ne connais pas l'adresse du site, mais je pense qu'en cherchant dans votre moteur de recherche préféré, Enfance Libre.
Oui, tout à fait. Et puis je mettrai un lien en dessous l'interview pour ceux qui veulent s'y rapprocher. Ouais, je mettrai un lien, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup, Mélissa.
Avec plaisir.
De ce temps que tu as partagé avec moi. C'était très riche et voilà, je te remercie énormément.
Je t'en prie.
Je vous remercie d'avoir écouté cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu et inspiré. Partagez-la un maximum et je vous dis à très vite.